Je vous propose donc d'ouvrir votre. On va pas retourner dans 1 Timothée. On fait une étude suivie dans 1 Timothée. Sur là, on a commencé un peu les qualifications des anciens et des diacres. Mais on va laisser cela un peu pour, si Dieu le permet, le mois de janvier. On reprendra, on verra. Et comme on approche la période de Noël un peu, donc j'aimerais qu'on regarde un peu que l'on médite un peu sur les thèmes, les grands thèmes de Noël. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. Et pendant les 3 mardis qui viennent, si Dieu le permet, on essaiera d'avoir quelques réflexions sur l'incarnation. Jean chapitre 1, et on va lire alors le verset qui va nous servir de fil conducteur un peu, c'est le verset 14, hein, qui est le grand verset de l'incarnation. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors ce que le texte dit ici, l'apôtre Jean dit ici, il parle de, si on n'avait que ce verset, on dit hop, la parole, de quoi est-ce qu'il parle, la parole qui est devenue chair. Donc on veut considérer d'une part la parole elle-même, puisque c'est ce qu'il fait en démarrant cet évangile. Et puis le fait de l'incarnation même, c'est-à-dire ce que cela signifie que la parole est devenue chair. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on veut avoir quelques réflexions sur l'incarnation. Mais on va lire. Alors, je pense que c'est important parce qu'en cette période de Noël, on peut laisser nos pensées partir un peu dans tous les sens. Hein. C'est les lumières partout. On pense vite à beaucoup de choses, à la fête ou au cadeau ou je sais plus quoi, hein. La famille qu'il faut voir, visiter. Mais en cette période de Noël, il est bon de garder toujours nos pensées sur ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation et ce qui est vertueux et digne de louange. D'après Philippiens chapitre 4 et au verset 8. Et je crois que l'incarnation du Fils de Dieu est un thème qui répond à tout cela, à tout ce qu'on vient de dire d'après Philippiens. Et c'est le grand fait que nous célébrons à Noël, hein, le fait que Jésus-Christ soit venu sur la terre. Donc le fait que Dieu se soit fait homme. Donc nous allons lire les quelques premiers versets de ce du prologue de l'évangile de Jean, verset 1, Jean chapitre 1, verset 1, il dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient en lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jusqu'ici notre lecture. Alors, c'est les textes qui parlent de Noël, si on regarde dans Matthieu ou dans l'évangile de Luc, hein, Marc n'en parle pas. Ici, Jean ne parle pas de la naissance non plus de Jésus-Christ, mais il parle plus du fait de l'incarnation. Ce sont des textes que nous pouvons lire à cette période, et puis nous avons tellement lu et relu des fois que nous lisons ça comme... on passe par là comme un chemin obligé, mais sans s'arrêter pour méditer sur les choses. Et je crois que la parole de Dieu, il est important que nous nous arrêtions pour méditer un peu les choses. Quand nous abordons l'évangile de Jean, il est bon de se rappeler d'une chose, premièrement, c'est quel est le but que Jean lui-même s'est fixé dans la rédaction de cet évangile. Et on le trouve dans l'évangile de Jean, ce but. Il se trouve, est-ce que vous vous rappelez? Où est-ce qu'on le trouve? Jean chapitre 20, voilà. Et on peut lire au verset 30 et 31, je vous lis. Il dit, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Jean, vous savez, Jean parle beaucoup de signes. Il a choisi des miracles bien spécifiques. Il dit que Jésus en a fait beaucoup d'autres qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais, verset 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà, un peu, on pourrait dire presque le double objectif. Et lorsque nous lisons cette lettre, cet évangile, nous devons penser, voilà ce que Jean cherche à faire. Il cherche à ce que l'on croit que Jésus, le Jésus historique, c'est ce qu'il dit ici, que Jésus est le Christ, Jésus qui a vécu, est le Christ à leur époque, qu'il est le Fils de Dieu, et puis qu'en croyant en son nom, on puisse parvenir au salut, à la vie éternelle. Donc c'est cela qu'il faut avoir dans notre pensée quand nous lisons. Et même, je crois que dans le prologue, la manière avec laquelle il écrit les choses, c'est déjà pour atteindre cet objectif-là. Alors, il adopte une approche quand même qui est une approche particulière. Il n'utilise pas d'emblée le mot Jésus au Fils de Dieu dans le prologue. Il ne dit pas Jésus est, et puis après il continue, mais il fait référence à quoi? Dans les premiers versets. À quoi il fait référence ici? À la parole. Il dit, déjà, il remonte jusqu'au commencement et puis il parle de la parole. Alors, on pourrait se demander, mais pourquoi est-ce qu'il parle de la parole? Peut-être parce que les habitués de l'Ancien Testament, déjà, étaient familiers au fait de décrire Dieu par ses paroles, par la parole. Quand on lit le livre de la Genèse, on voit que Dieu est décrit par sa puissance créatrice, par sa parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il dit qu'il y ait, et puis il y eut. Et le premier jour, qu'il y ait des luminaires, par exemple. Donc Dieu dit. On voit beaucoup, Dieu dit. Donc Dieu est montré ici par ce qu'il dit et le fait que ce qu'il dit se produit, donc par sa parole puissante. Le psaume 33, verset 6-9 dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et puis il ajoute au verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc vous voyez ici que Dieu est présenté par sa parole créatrice. Un peu. Et puis dans le Deutéronome, par exemple Deutéronome 4, verset 33, je crois que c'est Moïse qui parle au peuple, et il dit, fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant? Il parle même que la relation particulière de ce peuple avec Dieu, c'est le fait qu'eux, ils ont entendu Dieu parlant. Et il dit, est-ce qu'il n'y a jamais eu un peuple comme ça qui puisse entendre un Dieu qui parle et puis que le peuple demeure vivant? Il dit, ça c'est la relation que vous avez pu avoir de manière particulière. Vous avez entendu Dieu parler. Donc quand il fait référence probablement ici à la parole, je crois que Jean sait que ça aura une résonance particulière dans l'esprit de ses lecteurs et que le rapport avec Dieu sera fait, déjà. Et puis, une deuxième raison, c'est probablement parce que Jean ne veut pas certainement présenter Jésus-Christ en partant de du Jésus historique et puis pour remonter à Dieu. Il parle directement, hein, ce qu'on appelle la théologie d'en haut, hein, il part de Dieu au commencement, Dieu comme dans la Genèse, puis après il descend jusque, enfin on pourrait dire qu'il descend jusque vers la terre pour montrer le lien entre Dieu et le Jésus historique. C'est pour ça que quand on lit, on dit « Au commencement était la parole était avec Dieu ». Et on arrive, si vous regardez bien, on arrive au verset 14, il dit « Et la parole a été faite chair ». Et là, il arrive à l'incarnation. Et puis, il n'a toujours pas dit qui est cette parole quand même, hein, même au verset 14. Il faut attendre un petit peu plus loin dans la lecture où il dit que c'est Jésus. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans quel verset il dit ça, mais pour résumer, comment il établit le lien, regardez bien, au verset 14, il parle donc de, au verset 1 et 2, il parle donc de cette parole, il fait le rapport de la parole avec Dieu, on va revenir là-dessus. Au verset 14, il parle donc de l'incarnation de cette parole, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Au verset 15, il dit que, tiens, il y a même eu Jean-Baptiste, qui a rendu témoignage à cette parole. Il dit, Jean lui a rendu témoignage, et cet écrier, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. D'accord? Et puis, si vous regardez le verset 29 et 30, il dit que Jean-Baptiste l'a même identifié sur la terre en la personne du Jésus historique. Il dit, le lendemain, il vit qui ? Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et regardez le verset 30, il dit quoi ? Celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a quoi ? Précédé car il était avant moi. C'est exactement ce qu'il vient de dire, à quel verset ? Au verset 15, non ? Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Mais le verset 15 suit le verset 14, d'accord, où il est dit, Jean lui a rendu témoignage à qui ? À cette parole incarnée. Donc on voit ici, hein, verset 14, la parole a été faite chair, il y a l'habité parmi nous, Jean lui a rendu témoignage à cette parole incarnée qui est habité parmi nous, et il continue, Jean dit ici, et c'est celui dont j'ai dit, il m'a précédé, celui qui vient après moi, il m'a précédé, etc. Et puis il continue, il parle avec les Juifs, on n'a pas lu le texte, mais vous l'avez dit tout à l'heure, hein. Il parle avec les gens qui lui disent, mais est-ce que tu es le Christ ou tu n'es pas, etc. Il discute avec eux, il dit, je ne suis pas le Christ, etc. Et puis on arrive donc au verset 27, il dit, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et la Bible dit, verset 28, ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Et le lendemain, il vit venant vers lui, il vit Jésus venant vers lui. Et donc là, l'apôtre Jean désigne clairement de qui il s'agit. Jésus qui vient vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est lui dont je dis, celui qui vient après moi m'a précédé. Il est plus grand que moi parce qu'il m'a précédé. Donc on fait bien le lien ici et on voit au verset 29, il dit voilà, la parole donc c'est qui ? Il dit la parole dont il est question dans les premiers versets, eh bien, verset 14, elle s'est incarnée et qui est l'incarnation de cette parole ? Mais c'est le Jésus historique qui a vécu à cette époque dans le peuple d'Israël. Donc la parole dont Jean parle au verset 1, ne laisse aucun doute ici, hein, dans la tête des lecteurs de l'Ancien Testament, qu'il s'agit de Dieu, parce qu'il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc le concept, la notion de parole était quelque chose de clair certainement pour eux dans leur esprit. Donc qu'est-ce que Jean dit ici ? On va considérer, donc on va revenir au verset 1. Quelles sont les choses qu'il affirme concernant la parole, c'est-à-dire, on le sait maintenant, Jésus-Christ ? Donc la première chose qu'il montre, c'est, on pourrait dire, sa préexistence éternelle. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Une préexistence, on dit souvent, absolue. Ce verset ne dit pas que la parole est venue à l'existence, mais qu'elle était déjà là. Au commencement était la parole. Et donc, quand on lit au commencement, ça fait penser au verset de Genèse. Hein, au commencement, Dieu créa. Et l'apôtre Jean dit au commencement, apparemment, était la parole. Ça veut dire qu'aussi longtemps qu'on peut remonter à l'origine des choses créées, eh bien, il y avait la parole. Donc, la parole a préexisté avant la création du monde. Et donc Jean 1, verset 15, Jean-Baptiste, quelque part, affirme cette préexistence quand il dit « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. » On sait au moins une chose, c'est que la parole n'a pas existé à partir du moment où Jésus est venu sur la terre, puisque Jésus il est né 6 mois après Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste dit « Celui qui vient après moi, c'est-à-dire qui sera présenté publiquement après lui, en tout cas, l'a précédé parce qu'il était avant lui. » Donc, quelque part, il parle de la préexistence ici de Jésus. Donc, sa préexistence absolue, sa préexistence personnelle et relationnelle, c'est ce qu'on voit dans ce verset quand il dit que la parole était au commencement, mais elle était avec Dieu. Les spécialistes disent que le mot « avec » ici, c'est un mot qui a le sens d'aller vers, d'être auprès, par exemple. Hein. C'est ce qu'on trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8, quand l'apôtre Paul dit « Nous sommes pleins de confiance et aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » C'est un peu l'idée ici. Et donc, Jean affirme qu'il y a ici une relation qui est à la fois personnel et éternel entre la parole et Dieu. Donc, la parole, au commencement, était la parole était avec Dieu, donc il y a quelque chose qui évoque ici une distinction, une relation entre deux. Et puis, il dit donc qu'il s'agit d'une relation qui est éternelle entre deux personnes distinctes. Donc, une préexistence absolue, une préexistence personnelle, on pourrait dire, et relationnelle. De toute éternité, il y a une relation entre la parole et Dieu. Et puis, il affirme la divinité même de la parole. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, ce verset affirme de manière forte, et c'est l'une des affirmations les plus fortes. Parfois, on entend des gens qui discutent et qui disent « Ouais, dis-moi où Jésus a dit « Je suis Dieu ». Hein? » Alors, pour accepter, soi-disant, la divinité de Jésus-Christ, il faudrait qu'il puisse trouver l'endroit où Jésus lui-même a dit « Je suis Dieu ». Mais comme si c'est à nous d'imposer à Dieu la manière avec laquelle il va s'exprimer, avec la manière avec laquelle il doit dire ou quelque chose. Bien, ici, on a une affirmation forte parce que l'apôtre Jean dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Alors, certains avancent que dans le texte original, il n'y a pas ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah, surtout d'articles, et donc il faut, c'est pour ça qu'ils traduisent ici « La parole était un Dieu », et pas « La parole était Dieu ». Mais les spécialistes font remarquer que le mot, ce que veulent dire les témoins de Jéhovah, par exemple, c'est le fait de dire que bon, on pourrait dire que c'était juste ce que le verset évoque, c'est pas Dieu dans son être, mais c'est voilà une divinité quoi, un peu. Hein. Il était voilà une certaine divinité, mais où il était divin simplement. Mais le théologien Don Carson, par exemple, il fait remarquer que le mot divin existe dans le grec. Et que Jean aurait pu utiliser ce mot-là s'il avait voulu parler simplement voilà, d'une divinité sans parler de Dieu lui-même. Et puis, le fait de ne pas utiliser d'article défini devant un mot, eh bien, il y a d'autres cas dans le Nouveau Testament, et même dans ce même chapitre, au verset Jean 1, au verset 6, par exemple, il est dit « Il y eut un homme envoyé de Dieu ». Et il semble que dans l'original, là non plus, il n'y a pas d'article, mais les témoins de Jéhovah ont traduit exactement comme ça. Ils ont traduit « Il y eut un homme venu de dans la traduction du, comment s'appelle encore, du Monde Nouveau, voilà, traduit Dieu. Hein, comme si, ici, eh bien, voilà, là, il n'y a pas d'article, mais c'était pas important. Donc, ce qu'on n'accorde pas au premier verset, on l'accorde ailleurs pour pouvoir traduire certaines choses. Donc, il ne faut pas nous laisser troubler par ça, hein, si les gens nous disent « oui, mais voilà, il y a quelque chose là dans l'original que vous n'avez pas saisi, etc. » ça ne tient absolument pas pas la route. Et ce même théologien, Don Carson, faisait remarquer que si on mettait un article en plus dans la langue grecque, ce serait équivalent à dire que la parole, si vous voulez, hein, la parole est complètement tout ce que Dieu. Comment je vais dire ça? Tout ce que Dieu est, la parole l'est complètement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place ni pour Dieu le Père, ni pour Dieu le Saint-Esprit. La parole suffit à définir complètement Dieu. Or, la Bible présente un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc la parole n'est pas tout ce que Dieu est, mais elle est la elle n'est pas, si vous voulez, la totalité, on dit, de la divinité, mais elle partage la nature de Dieu et son essence. Hein. Quand on fait notre catéchisme, vous vous rappelez qui est le Dieu le Fils, hein, on dit qu'il est le Dieu le Fils et le Fils unique du Père. Il est quoi? Le reflet de sa gloire, l'exacte représentation de sa nature, même en, on dit pas essence et en gloire, je crois qu'on dit comme ça, hein, impuissante. Voilà. Donc il y a cette comment dirais-je, cette il faut bien saisir cela. Hein. La parole n'est pas tout ce que Dieu est, puisque Dieu est à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais la parole partage toute la nature, toute l'essence de Dieu. Et quelqu'un disait, on avait étudié ce livre avec Michael de MacLeod, il disait, si le Christ n'est pas Dieu, il ne peut pas être la révélation de Dieu. Si le Christ n'est pas Dieu, les hommes n'ont pas été sauvés par Dieu. Si le Christ n'est pas Dieu, les croyants n'ont pas été unis à Dieu. Et par-dessus tout, si le Christ n'est pas Dieu, les chrétiens n'ont aucunement le droit de l'adorer. Donc il est important de maintenir force et vérité. Je crois que ce que Jean fait, déjà, il part, c'est pour ça qu'on dit qu'il parle, il pratique ce qu'on appelle la théologie d'en haut, il part d'abord de Dieu, qui est Dieu, et puis après il va arriver à comment Dieu s'est incarné. Ce qu'on peut voir encore dans ce qu'il dit dans ses premiers versets, donc on a dit qu'il parle de la préexistence éternel de Dieu, de la divinité de la parole, mais il parle aussi du caractère créateur de la parole. Voyez ça au verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc il utilise une manière à la fois positive et puis négative de parler du caractère créateur de la parole. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit toutes choses ont été faites par elle, ça c'est l'aspect positif. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. D'accord? Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que tout ce qui a été créé, de tout ce qui a été créé, eh bien, il n'y a rien qu'il n'ait créé lui-même. Donc c'est important de considérer ça parce que certaines personnes disent, certaines théologies disent que Jésus, la parole a d'abord été créée et puis ensuite elle a créé. Donc, il se base là-dessus pour dire cela, sur Colossiens chapitre 1, verset 15, qui dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Voilà, donc il a été le premier créé, et puis ensuite, il l'a créé. Mais c'est pas, et c'est comme ça qu'il présente la chose pour dire que Jésus-Christ, par exemple, n'est pas Dieu, qu'il est une créature. Mais l'expression « premier-né » a dans l'Écriture plusieurs sens. Hein. Par exemple, dans Luc chapitre 2, verset 7, où il est dit que Marie enfanta son fils premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était son premier fils qui lui est né ici. Hein. Mais on trouve, donc il y a un sens chronologique et puis un sens d'un aspect de naissance ici. Mais par exemple, dans le psaume 89 et au verset 28, je crois, il est dit... Aussi, moi, je... Alors, une question, un psaume qui parle de David, hein, c'est un long psaume, hein, si vous lisez ce psaume, vous allez voir. Il dit, aussi, moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. Et donc on comprend ici que le premier-né n'est pas quelqu'un qui va, un premier enfant qui va naître, puisque le sens il est, qu'on doit comprendre, il est renforcé juste à côté du verset. Il dit aussi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Et donc ici, l'expression premier-né ne veut pas dire premier créé, mais il évoque une position élevée, hein, d'accord, le plus élevé du roi de la terre, une prééminence, hein, une place très élevée. Donc on pourrait dire que Colossiens 1,15 dit que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Ce qu'il dit, il ne dit pas que Christ est le premier créé, mais il dit qu'il occupe une place suprême, prééminente, dans toute la création de Dieu. C'est lui qui a tout créé, et puis ça, la place qu'il occupe est au-dessus de tout cela. Donc voilà, ce sont des choses qui sont, que Jean définit un peu, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus. Mais j'aimerais continuer. Donc après, il développe un certain nombre de choses, et puis il arrive en fait au verset 14 où il parle de cette parole donc il a présentée, qui est Dieu, qui était avec Dieu dans une relation éternelle, qui a créé toutes choses. Plus tard, il dit même qu'il a apporté la lumière. Eh bien, il dit que cette parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplé, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, Dieu a choisi, on pourrait dire, de se faire connaître d'une manière particulière. L'Épître aux Hébreux nous dit que, après avoir parlé à nos pères, parlait prophète, hein, on va appeler ça, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. On pourrait dire, donc on voit ici que le Fils est la révélation même de Dieu, et Dieu, quelqu'un disait que Dieu a choisi de se faire connaître de façon finale et ultime en un homme réel et historique. C'est extraordinaire ça, hein. C'est-à-dire que Dieu qui s'était fait connaître par ses œuvres de création, par sa parole, à travers les prophètes, parfois à travers des songes, choisit de se faire connaître maintenant d'une manière définitive, on pourrait dire, et ultime, par un homme réel, il dit, et qui a vécu dans notre histoire. Et c'est cela le fait de l'incarnation. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. D'accord? Donc cette parole qu'on vient de décrire, qui est Dieu, qui était avec Dieu dans une relation éternelle, est venu et a habité parmi nous. C'est quelque chose qui est inexplicable. Hein. On dit que c'est un mystère insondable. C'est d'imaginer cela. Dieu qui a existé de toute éternité, dans une relation éternelle entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il s'incarne, il devient un homme. Hein. Quelqu'un dit, c'est celui qui a tout créé entre dans sa création. Et Dieu fait l'expérience de l'humanité. C'est quelque chose il n'y a cela que dans le christianisme, même dans l'histoire de la mythologie, qu'on trouve des dieux qui prennent plus ou moins une forme humaine pour faire quelque chose, mais l'incarnation, devenir un homme réel et historique, qui connaît, après on va le voir après, mais les limitations que les hommes peuvent connaître, c'est quelque chose qui échappe à notre entendement, qui est à proprement parler incompréhensible. Le mot habiter ici signifie il a dressé sa tente, hein. D'autres disent il a tabernacle, comme le tabernacle. Dieu a dressé sa tente. Et on se souvient que Dieu avait ordonné à Moïse de construire le tabernacle et il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Et après, il dit que c'est toujours le désir de Dieu, c'était son désir d'habiter au milieu de son peuple. Mais là, il choisit de le faire d'une manière extrême et ultime en devenant un homme. Et la parole donc a été faite chair. Mais on pourrait se poser la question, comment est-ce que, du comment de cette incarnation, hein? C'est vrai que quand on lit, bon, la parole a été faite chair, on dit voilà, Dieu s'est fait. Mais comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que, par exemple, il y a eu un homme là-bas, je sais pas, et puis un jour, Dieu a décidé de venir et d'habiter par son esprit cet homme? Il y a des gens qui disent cela. Hein. Ils disent que, voilà, le Christ est venu sur un homme qui est né d'un père et d'une mère. Il a habité cet homme-là. Et puis, Jésus a vécu. Ce Jésus-là, il a vécu sur la terre pendant un certain temps. Et puis, il est reparti de cet homme juste avant la crucifixion. D'accord ? Mais ce n'est pas ça que la Bible dit ici. Hein. La Bible dit ici que la parole qui est Dieu, est devenu un homme réel. Et ça, c'est toute la grandeur de l'incarnation. Et comment cela s'est passé? Eh bien, la première chose qu'on pourrait considérer, c'est la naissance virginale de Christ. Il est venu par une naissance virginale. Alors, c'est quand même extraordinaire parce que le comment de l'incarnation est aussi... saisissant, aussi incompréhensible que l'incarnation, le principe même de l'incarnation. Hein. Que Dieu se fait homme, c'est quelque chose qui échappe à notre entendement. Mais qu'un homme naisse de manière... qu'un homme naisse d'une vierge, c'est quelque chose qui est encore... qui est aussi, tout aussi stupéfiant. Et c'est quelque chose qui est rejeté par beaucoup... demande même beaucoup de théologiens. Hein, des gens qui disent que voilà, c'est quand même plus encore que la résurrection. Hein, que quelqu'un puisse naître de manière virginale, comme c'est écrit dans la Bible, il y a beaucoup de gens qui rejettent cette vérité. Mais l'évangile de Matthieu soutient cela en nous disant, voici comment arriva la naissance de Jésus. Et c'est important aussi pour nous de regarder ça. On va prendre quelques minutes et puis ensuite on va s'arrêter parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin, mais quand on lit l'évangile de Matthieu, par exemple, hein, on trouve au début, là, quand Matthieu donne la généalogie, on trouve beaucoup de fois l'expression, je crois 39 fois, il est dit X engendra Y, on pourrait dire comme ça. Et puis quand on arrive au verset 16, nous lisons Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né ou engendré Jésus qui est appelé Christ. C'est-à-dire que quand on arrive avec Jésus, il n'a pas dit X engendra Y simplement, mais il dit ici, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né ou engendré Jésus qui est appelé Christ. Il y avait déjà donc une différence déjà en voix entre la manière de parler de tous les hommes, hein, Jacob engendra, etc., etc. Et quand on arrive pour Jésus, la chose est dite légèrement différemment. Matthieu laisse entrevoir donc quelque chose de différent. Et puis après, il va s'étendre un peu plus longuement là-dessus dans les versets suivants. Mais on veut souligner deux vérités de ce que Matthieu dit quand il parle de la naissance de Jésus. Premièrement, il souligne la virginité de Marie. Et deuxièmement, il souligne l'action créatrice du Saint-Esprit. Donc si vous voyez ça, il dit par exemple, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. D'accord ? Donc il parle beaucoup de choses ici. Hein ? Il parle donc de cette virginité, il parle du fait que c'est l'action du Saint-Esprit et il parle du fait qu'elle était vierge, ils n'ont pas habité ensemble. Hein ? Pas eu de relation. Et puis, donc je disais, deuxièmement, il souligne vraiment le fait que de l'action du Saint-Esprit, parce qu'il dit, Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Et ça, c'est au verset 18 du chapitre 1 de Matthieu. Et puis au verset 20, il dit, l'enfant qu'elle a conçu, c'est ça l'ange qui parle à Joseph, il dit, l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Donc ce sont les deux choses, hein, on pourrait dire les deux choses qui expliquent le comment de l'incarnation, si on pouvait dire cela ainsi. D'abord, premièrement, la virginité de Marie. Le texte de Luc 1:31-34 témoigne aussi fortement de cette vérité-là. Il dit, voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Et puis Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Donc la Bible insiste vraiment, enfin les textes qui parlent de cela, Matthieu et Luc en tout cas, insistent sur la conception, on dit la conception virginale. Alors Jésus est né naturellement. Si vous voulez, sa naissance en elle-même était une naissance naturelle, mais sa conception est une conception virginale. On fait une différence entre les deux, d'accord? Il est né comme les autres enfants sont nés, d'accord? Marie, il y a une gestation de 9 mois, hein, Jean-Baptiste est né, après on sait que Marie a enfanté Jésus, mais la conception, d'accord, l'enfant qu'elle a conçu, dit l'ange, vient du Saint-Esprit. La conception est tout à fait miraculeuse ici. Et donc il faut bien retenir cela. Deuxième chose que je voudrais souligner, c'est l'action du Saint-Esprit. Hein, au verset 18 de l'évangile de Matthieu, on l'a déjà dit, hein. Et cette conception par le Saint-Esprit, c'est ce que l'ange Gabriel dit aussi à Marie. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Hein. Et donc, il parle aussi de cette action forte du Saint-Esprit dans la conception de Jésus. Le Saint-Esprit entreprend donc une œuvre de création, on pourrait dire, ici. Et tout comme le Saint-Esprit, bon, la Bible dit, planait sur les eaux lors de la création, eh bien, il dit que le Saint-Esprit te couvrira de son nombre. Et c'est pour cela que le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Très-Haut, je crois qu'il dit comme ça. Donc on peut dire en résumé que Jésus-Christ, le fils de Dieu, a été conçu miraculeusement de la Vierge Marie par la puissance du Saint-Esprit. Donc on ne va pas développer ça longtemps, on pourrait prendre du temps pour le développer, mais ça c'est les deux choses qu'on peut retenir concernant le comment de l'incarnation. Et Matthieu ajoute que la raison pour laquelle tout cela arriva est l'accomplissement de la parole du Seigneur annoncée par le prophète. Il dit tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Il dit voilà, il dit ça arrive afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire le fait que Dieu vienne habiter. Donc c'est c'est l'incarnation hein, dont il parle ici, Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Donc je voudrais terminer en citant un peu ce que dit Wayne Grudem dans son livre de théologie systématique. Il dit il est important de se souvenir que la naissance virginale n'était pas le moyen par lequel Jésus a évité de contracter le péché originel d'un père humain. Il y en a qui disent, ouais, Jésus est né d'une vierge parce que c'est l'homme qui amène le péché. Et donc, voilà, il fallait écarter l'homme. Et puis, comme ça, ça permettait à Jésus de naître et de ne pas contracter le péché. Mais selon la Bible, l'homme est déchu, mais aussi la femme. Et elle a aussi besoin de sauveur. D'ailleurs, Marie, dans son cantique, elle dit quoi? Elle dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon sauveur. Hein? Elle exprime ce besoin de salut aussi. Et donc, l'importance de la doctrine, il dit, de la naissance virginale apparaît dans au moins 3 domaines. Alors, parfois, on peut dire, oui, mais est-ce que c'est, est-ce qu'il vaille la peine de se battre pour ça? Est-ce que ça vaut la peine? Eh bien, il dit que la naissance virginale est la doctrine, l'importance de la doctrine apparaît au moins dans 3 domaines. La naissance virginale montre que le salut vient toujours de Dieu. Le salut vient toujours de Dieu. Donc, aucun homme n'aurait pu fournir, aucun couple n'aurait pu fournir un homme qui puisse être le sauveur de tous les hommes. Que le salut vient de Dieu, toujours de Dieu. Il dit, deuxièmement, elle a rendu l'union possible l'union de la pleine divinité et de la pleine humanité en une seule personne. Donc on verra ça la prochaine fois, qu'est-ce que ça veut dire vraiment, Jésus était pleinement humain. Et puis, troisièmement, il dit, elle permet aussi, donc la doctrine de la naissance virginale, elle permet la vraie humanité du Christ sans péché hérité. Donc il dit que l'œuvre du Saint-Esprit en Marie doit avoir empêché non seulement la transmission du péché par Joseph, parce que Joseph n'était pas le père humain, mais aussi, de manière miraculeuse, la transmission du péché par Marie. Et c'est pour cela qu'il dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi », dit l'ange Gabriel à Marie, « et c'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé saint ». Autrement dit, la sainteté, l'Église catholique dit quoi par exemple? Elle dit que la sainteté de l'enfant vient par l'Immaculée Conception. C'est pour ça qu'il considère Marie comme étant sans péché. Et donc, si vous voulez, c'est Marie qui donne sa sainteté à Jésus. Mais l'Écriture dit non, l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira, et c'est pour ça que l'enfant qui naîtra de toi sera appelé saint. Autrement dit, sa sainteté vient par l'action, l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est important aussi de souligner cela. Donc, je termine. Qu'est-ce que nous pouvons répondre à tout cela? Parce que quand on lit l'évangile de Jean, eh bien, c'est pas juste simplement une information. Il dit, tout cela a été écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et voilà. Et donc, c'est ça qui est important pour nous ici de considérer. Verset 9 à 13 dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À ceux qui croient que la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole existe de toute éternité, que la parole a été faite chair, et que le Jésus historique qui a vécu il y a plus de 2000 ans est la parole de Dieu incarnée, il dit, ceux qui croient cela et qui placent leur confiance en lui ont la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose que nous devons considérer, reconsidérer à cette époque de Noël, hein. Ne pas passer sur ces choses comme si c'était des choses sans importance, mais demander au Seigneur la capacité de saisir, de méditer en tout cas sur ces choses pour que nous puissions encore affirmer en plus notre foi dans ces réalités. Ne pas avoir peur même de les dire, hein, parce que ce sont des vérités fondamentales de l'Écriture. Nous devons, cela doit nous amener à adorer véritablement le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes poussés à l'adorer pour cette merveille insondable. Comme on le chante, je termine avec, aux merveilles insondables, Dieu envoie son Messie, salut inestimable enfanté par Marie. Apprenez en ce jour, bienveillance à tout homme, gloire à Dieu pour toujours. Et la deuxième strophe de ce cantique dit, la parole divine vient chez nous habiter. Tout le ciel chante une hymne, l'annonçant au berger. Écoutez en ce jour, bienveillance à tout homme, gloire à Dieu pour toujours. Que ce soit vraiment le chant de nos cœurs, hein, méditons sur le fait que la parole divine est venue habiter parmi nous en la personne de Jésus-Christ, qui a vécu il y a plus de 2000 ans sur cette terre. Et l'évangile a pour fondement des faits historiques. Confiance est basée non pas sur des suppositions, mais sur des faits historiques, avec des témoins oculaires qui nous rapportent ce qu'ils ont vu. Nous pouvons mettre pleinement notre confiance dans cela. Et l'apôtre Jean dit que celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, eh bien, il a la vie éternelle. Que le Seigneur nous aide dans ces choses. Prions. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Donne-nous, en ces temps qui viennent, de nous poser et de méditer sur le grand fait de l'incarnation, sur le miracle de ta naissance, sur le miracle de la grâce. Merci parce que c'est toi qui as pourvu un sauveur. C'est toi-même, Seigneur, qui est venu en la personne de Jésus-Christ, qui a revêtu notre humanité, qui a pris notre péché, qui est mort, qui est ressuscité, pour que nous puissions avoir la vie. Que nos cœurs puissent continuer à s'émerveiller de la grandeur de cette œuvre. Oui, nous ne pouvons pas tout saisir, mais que nous nous contentions de contempler de ce que tu as accompli, de nous émerveiller encore par le caractère insondable de ce que tu as accompli pour que nous puissions avoir la vie. Que ton nom soit glorifié. Amen.